Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Après ce mois de mars qui a tenu toutes ses promesses avec ses giboulées célèbres, une pluviométrie qui soulage et qui nous fait parfois râler.
Ça aussi.
Tu nous parles des eaux du bassin du Thouë, de sa qualité et de sa gestion.
Gros dossier Jacqueline. Alors je souhaite vous en parler puisque si vous l'avez loupé, il y a une enquête publique qui est ouverte sur le SAGE du bassin du Thouë. Alors le SAGE, Jacqueline,
schéma
d'aménagement et gestion des eaux. Le SAGE doit gérer la qualité et la quantité de l'eau du bassin. Gérer et valoriser aussi les milieux aquatiques. C'est par exemple toutes les chaussées qui ont été supprimées sur nos cours d'eau. Donc les habitants de la ruralité savent trop bien de quoi je parle. Ça a fait râler pas mal de monde souvent. Donc, vous auditeurs et habitants du bassin, vous avez un droit de regard et de proposition sur ce nouveau schéma jusqu'au 20 avril.
Ce bassin du Thouë, est-ce qu'il se limite, Ludo, au Pays Toircet ?
Justement non. Alors, il concerne 169 communes sur 3 départements, les Deux-Sèvres, la Vienne et le Maine-et-Loire, soit environ 240 000 habitants. Alors retenez, pour plus de simplicité, les 5 agglomérations principales pour quadriller l'espace. Loudun, Saumur, Thouars, Parthenay et Bressuire.
Loudun, Saumur, Thouars, Parthenay, Bressuire.
Voilà.
Avant de proposer d'éventuelles idées en tant que citoyen, exact, comme tu nous le soumets, peux-tu nous faire un état des lieux du bassin qui va donc de Parthenay à Thouars en s'étirant jusqu'au bocage Bressuire?
Oui, alors le Thouë, qui a sa source à Beugnon-le-Tireuil, parcourt 152 km jusqu'à l'aval de Saumur, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, très exactement. Alors il traverse un territoire à domaine agricole, hein, plus de 85% de sa surface, dont plus de la moitié sont des terres cultivées, alors que seulement 16% sont des prairies. En termes de géologie, vous avez à l'ouest les terrains cristallins granitiques du massif armoricain, les zones du bocage et de la Gâtine, donc les terres d'élevage. À l'est, vous avez les roches sédimentaires, un peu plus calcaires, appartenant à l'ensemble du bassin parisien, ce sont les zones céréalières. Le Thouë possède donc la majorité de son bassin sur un sol cristallin du massif armoricain, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser.
Ce qui implique que c'est un bassin aux nappes superficielles avec peu de réserves, peu d'inertie.
Et peu d'inertie, exactement. Les débits varient énormément selon saison. Voilà ce que ça veut dire. Nous prélevons 25 millions de mètres cubes sur ce bassin. 13,5 millions pour le potable et 10 millions de mètres cubes pour l'irrigation et 1 million pour l'industrie. Oui, 10 millions de mètres cubes quand même. Je te vois faire les gros yeux. Alors ça fait plus de la moitié pour le potable et 40% pour l'agriculture. Ça fait 24 000 mètres cubes par exploitation irrigante en moyenne. Et à titre de comparaison, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, Sainte-Soline, c'est 52 000 mètres cubes par exploitation en moyenne, soit le double.
Nous avons assez d'eau normalement sur le bassin. Qu'en est-il de sa qualité ?
Alors la qualité, c'est vrai que c'est plus compliqué. La qualité, on étudie deux choses. L'état écologique, qui correspond à la structure et au fonctionnement des écosystèmes, en fait, c'est-à-dire les poissons, les invertébrés. On regarde aussi la température, la transparence de l'eau, etc. Et l'état chimique, qui cible, lui, 53 substances pour lesquelles des normes sont définies. Il faut différencier les cours d'eau, les nappes et le lac du Sébron, qui, lui, est inclus aussi dans le bassin du Thouë.
Nos cours d'eau, justement, Ludo, dis-nous que nous faisons assez attention à nos pratiques pour leur qualité.
Et oui, puisque c'est quand même l'affaire de tous, l'eau, hein, précisons-le. Alors, pour les nitrates, la concentration est quand même plus importante à l'est du bassin, en lien avec les cultures céréalières, avec parfois des taux supérieurs à 50 mg, comme sur la Dive. Alors c'est aussi lié à son sol, qui est plus filtrant, et les nitrates qui, eux, sont lessivables. Côté ouest, comme sur le Sébron, nous sommes en dessous les 30 mg. Ensuite, pour le phosphore, qui contribue, lui, à l'eutrophisation des eaux de surface, c'est l'inverse. C'est lié, en fait, au sol peu filtrant du massif armoricain, qui, lui, est situé à l'ouest du bassin, et donc à l'activité d'élevage. Le phosphore est peu lessivable, avec des eaux de surface, en fait, ça se concentre, et on atterrit ça dans les rivières, et c'est là qu'on mesure un taux de phosphore plus élevé, pour être plus concret. Pour les pesticides, nous devons mieux faire, clairement, puisqu'on observe une contamination liée aux molécules de la famille du glyphosate. Et on peut préciser, Jacqueline, quand même pour le Sébron, qui est notre source d'eau potable avec plus de 7 millions de mètres cubes d'eau distribuée, avant traitement, l'eau est en bon état pour les critères nitrate et pesticides. Mais c'est sur le phosphore, comme on vient de le dire, que les efforts sont à réaliser en amont. Et lui, l'état écologique, donc le milieu du vivant, est lui médiocre.
Quel type d'agriculture sur le bassin ? Faut-il mettre toujours plus de prairies ?
Prairies. Alors le SAGE, et nous aussi, on aime les prairies. Rien de surprenant, puisqu'elles rendent des services écologiques, comme limiter l'érosion, limiter les pollutions diffuses, augmenter la biodiversité de la flore et de la faune. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que les surfaces en céréales augmentent au détriment des surfaces en élevage. Ça, c'est un fait aujourd'hui en agriculture. Les prairies, donc. Même s'il est possible de faire des céréales sans détériorer la qualité de l'eau, mais avec des pratiques peut-être un peu différente que celle qu'on le pratique aujourd'hui. De leur côté, les zones d'élevage, elles sont clairement identifiées. Et la plus importante est bien celle de l'Argentonais. 45% de l'activité du bassin à lui seul, avec des bovins et des volailles essentiellement. Et donc des soucis de phosphore. Il est lié en plus à son sol peu filtrant, comme on a dit. Et il faut aussi préciser que la pollution vient aussi des particuliers. 45% des masses d'eau sont soumises aux pollutions ponctuelles des assainissements collectifs.
Donc on ne peut pas tout mettre sur le dos des agriculteurs. On est bien d'accord. Plus de prairies, moins de céréales. Alors que c'est bien l'inverse que nous vivons en agriculture pour des soucis de viabilité et de vivabilité, exactement, me semble-t-il. Ça ne sera pas si simple,
non,
alors ?
Ça ne va pas être si simple que ça.
Le changement climatique a-t-il été modélisé sur notre bassin ?
Oui, alors, le modèle annonce une baisse des débits d'eau de 20 à 30 % et une hausse des températures qui va accentuer en fait l'évapotranspiration. Et c'est d'autant plus que tout l'ouest du bassin, la partie élevage, possède une faible réserve utile dans son sol granitique. La qualité de l'eau sera donc un sujet encore plus sensible.
Il y a du boulot, Ludo.
Et oui, comme toujours. Alors, du côté de l'agriculture, avec les nitrates et les pesticides, pour le côté est du bassin, et puis il va falloir qu'on s'occupe du phosphore à l'ouest de ce bassin, sur son sol armoricain. Les collectivités et les particuliers auront aussi du boulot pour les assainissements et les pratiques domestiques. L'eau est un bien commun, il ne faut quand même pas l'oublier.
Précieux.
Et donc, je vous invite à les déposer, vous qui avez des idées constructives, s'il vous plaît, vos idées en mairie pour cette enquête publique. Voilà.
Merci Ludo, le sage Ludo.
Merci Jacqueline, bonne journée. Ciao.